Lizzie présente Rivage de la colère de Caroline Laurent, lu par l'autrice.
À ma mère, à tous les Chagossiens en exil. Des îles où le temps s'est coulé sans hâte. Chez Naz Patel, le silence des Chagos. Car enfin, au combat qui pour toi se prépare, c'est peu d'être constant, il faut être barbare. Racine, Bérénice. Première partie. Ce n'est pas grand-chose, l'espoir. Une prière pour soi, un peu de rêve pilé dans la main, des milliers d'éclats de verre, la paume en sang. C'est une ritournelle inventée un matin de soleil pâle. Pour nous, enfants des îles là-haut, c'est aussi un drapeau noir aux reflets d'or et de turquoise. Une livre de chair prélevée depuis si longtemps qu'on s'est habitué à vivre la poitrine trouée. Alors continuez. Fixer l'horizon. Seuls les morts ont le droit de dormir. Si tu abandonnes le combat, tu te trahis toi-même. Si tu te trahis toi-même, tu abandonnes les tiens. Ma mère. Je la revois sur le bord du chemin, la moitié du visage inondée de lumière, l'autre moitié plongée dans l'ombre, ma géante aux pieds nus. Elle n'avait pas les mots et qu'importe, elle avait mieux puisqu'elle avait le regard. « Debout, mon fils, ne te rendors pas. Il faut faire face. Avec la foi, rien ne te sera impossible. » La foi, son deuxième étendard. Trois lettres pour dire Dieu, et Dieu recouvrait sa colère, son feu, sa déchirure, la course éternelle de sa douleur. Je n'ai pas la foi. Je préfère parler d'espoir. L'espoir, c'est l'ordinaire tel qu'il devrait toujours être. Tourner vers un ailleurs. Pas un but ni un objectif, non, un ailleurs. Un lieu secret dans lequel, enfin, chacun trouverait sa place. Un lieu juste. Le mien existe. Une île perdue au large de l'océan Indien. Une langue de sable exagérément plate et vide et calme. Une certaine transparence des flots. La mer comme un pays. Cette île que personne ne connaît, c'est chez moi, c'est ma terre. Tu vois, ton absence n'y change rien. Même sans toi, maman, je continue. Je suis prêt. 12 heures de vol jusqu'à Paris. Puis un train pour La Haye, changement à Rotterdam. Je n'aurai pas le temps de visiter la tour Eiffel. J'aurais aimé pourtant. Grimper au sommet et que pour une fois, ce soit moi qui regarde les autres de haut. Pardon. Je ne pars pas en touriste. Je n'ai jamais été un touriste. C'est quoi un touriste? Un blanc en Bermuda et en tongue qui vient oublier à Maurice qu'il gagne de l'argent? Pas de promenade non plus à La Haye. Des Pays-Bas, je ne verrai que la Cour internationale de justice. Le monde posera ses yeux sur nous. Un duel. La justice est la méchante sœur de l'espoir. Elle vous fait croire qu'elle vous sauvera. Mais de quoi vous sauvera-t-elle, puisqu'elle vient toujours après le malheur? Un verdict, ça ne répare rien, ça ne console pas. Parfois, tout de même, ça purge le cœur. La seule délivrance que je vise est celle-là, la purge. Mettre à terre les coupables, renverser l'ordre établi. Tu n'en demandais pas tant, maman. Cette colère-là, c'est seulement la mienne. Quand les gens devant moi s'émerveillent, ton courage, vraiment, ta force depuis toutes ces années, je ne sais que répondre. Le courage est l'arme de ceux qui n'ont plus le choix. Nous serons tous, dans nos pauvres existences, courageux à un moment ou un autre. Ne soyez pas impatients. Mars 1967. Vise l'œil et tu transperceras la tête. Le lagon était immobile, lisse comme une plaque de verre. Les alizés, qui avaient secoué les vagues noires de nuit, retenaient à présent leur souffle. Marie fixa une dernière fois sa proie, leva sa fouenne bien haut et la battit d'un coup sec entre les coraux. « Vise l'œil et tu transperceras la tête. Oublie le reste autour. Pique-le !» Les mots de sa mère étaient passés dans ses gestes. Mémoire insulaire, mémoire de feu, transmise aux filles depuis tant de siècles. Son corps savait. Bientôt, c'est à Suzanne qu'elle l'agressa. Marie sentit une résistance au bout de son harpon. Le poulpe lâcha un nuage d'encre. Trop tard, il était pris. Elle hissa la bête hors de l'eau en poussant un cri de victoire, engagea un fil de fer dans son bec. Avec un bruit mat, la tige transperça le cerveau flasque. Au loin, l'air se teintait déjà d'or et de blancheur. Elle avait traqué la bête trop longtemps. Il devait être 6 heures et le travail sur la plantation de copra allait commencer. Marie pesta contre elle-même. Une fois de plus, Josette serait obligée de justifier son retard auprès du vieux Félix. Elle imaginait d'ici le regard de sa sœur. « Ah, te voilà, toi, je t'écoute. » Avec un sourire désolé, elle lui avouerait. L'appel de la mère, violent, irrépressible, la proie enroulée dans les anfractuosités de la roche, le temps qui s'efface alors. Elle prendrait sa place sur la parcelle, sortirait son coupe-coupe, et après avoir fendu le premier coco, glisserait à l'oreille de Josette « Je vais cuire une fricassée délice pour toi !» Sa sœur lui mettrait une petite claque sur l'épaule. Fin de l'histoire. La pieuvre jetée dans son dos, Marie s'apprêtait à regagner le rivage quand une ombre l'arrêta à l'horizon. Elle plissa les yeux, devina une tache grise tout au nord de la passe. Parfois, elle le savait, les désirs sont si puissants qu'on discerne avec précision le contour de choses qui n'existent pas. Et ce qu'elle désirait par-dessus tout, dans l'aube de Diego Garcia, c'était voir la première, le cargo. Depuis quelques jours, l'île tout entière palpitait. Le sœur Jules avait quitté Port-Louis et sillonné l'océan Indien. Le vieux Félix avait relayé le message de l'administrateur. « Qu'on décore l'église, qu'on prépare les entrepôts. Le navire n'allait plus tarder. » Chaque fois que le sœur Jules ou le Mauricheuse faisaient halte sur l'archipel des Chagos, Marie oubliait son labeur quotidien. Un royaume se déversait sur les plages de l'île. Des denrées introuvables à Diego, comme le riz, la farine ou le sucre, envahissaient la jetée. Du vin, du tissu, du savon, des médicaments, des produits de beauté rejoignaient les réserves, et des hommes venus de loin leur apportaient distractions et nouvelles. Le curé, le capitaine, plus rarement un docteur. Tant de rêves. Marie regarda droit devant elle. À l'autre bout du monde, des gens vivaient dans la neige. La neige. Le mot seul la faisait frémir. Il fallait se représenter un grand manteau blanc tendu sur le corps du monde, lui avait-on expliqué. Mais l'unique manteau blanc qu'elle connaissait était la plage de Diego Garcia, aussi immaculée que la coquille des œufs de tortue. Dans sa ligne de mire, la tache grise se fit plus précise. Lorsque des points lumineux, rouges, puis verts, se mirent à clignoter, elle comprit qu'elle ne s'était pas trompée. Elle regagna la rive à la hâte, brouillant le nuage d'encre de la pieuvre. De violette, l'eau devint mauve pâle, pareille aux fleurs du jacaranda. Il fallait qu'elle prévienne Josette, qu'elle prévienne les autres. Personne ne travaillerait plus aujourd'hui. Le sœur Jules était là. Sur le sentier, emportée par l'excitation, elle se mit à courir, indifférente aux poulpes valsant dans son dos, à sa jupe trempée et aux cailloux qui lui cisaillaient la plante des pieds, soulevant derrière elle une fine écume de terre. « Bateau là !» Les hommes sortirent de l'entrepôt, intrigués. Elle ne s'arrêta pas, fila jusqu'à la parcelle où les femmes écalaient les cocos. Sa sœur était courbée en deux, occupée à tourner la chair blanche des noix vers le soleil. « Josette !» La silhouette se redressa, déploya son corps rond de bonbonnière, posa les poings sur les hanches. Le coupe-coupe suspendu, toutes les femmes tournèrent la tête vers Marie. Son cœur battait vite après cette longue course. Elle se laissa tomber sur le muret, savoura l'instant.